Quatrième partie. Le bout de guerre. Chapitre 1. Le proscrit. Pendant plus de 3 années, Robert d'Artois, comme un grand fauve blessé, rôda aux frontières du royaume. Parent de tous les rois et princes d'Europe, neveu du duc de Bretagne, oncle du roi de Navarre, frère de la comtesse de Namur, beau-frère du comte de Hainaut et du prince de Tarente, cousin du roi de Naples, du roi de Hongrie et de bien d'autres, il était, à 45 ans, un voyageur solitaire devant lequel les portes de tous les châteaux se fermaient. Il avait de l'argent à suffisance grâce aux lettres de change des banques siennoises, mais jamais un écuyer ne se présentait à l'auberge où il était descendu pour le prier à dîner chez le seigneur du lieu. Quelques tournois se donnaient-ils dans les parages? On se demandait comment éviter d'y convier Robert d'Artois, le banni, le faussaire, que naguère on eût installé à la place d'honneur. Et un ordre lui était délivré avec une déférence froide par le capitaine de ville. Monseigneur le comte Suzerain le priait de porter plus loin ses pas. Car Monseigneur le comte Suzerain, ou le duc, ou le margrave, ne voulait pas se brouiller avec le roi de France et ne se sentait tenu à aucun égard envers un homme si déshonoré qu'il n'avait plus ni blason ni bannière. Et Robert repartait à l'aventure, escorté de son seul valet Gilet de Nesle, un assez mauvais sujet qui, sans effort, eût mérité de se balancer aux fourches d'un gibet, mais qui vouait à son maître, comme l'Ormé jadis, une fidélité sans limite. Robert lui donnait, en compensation, cette satisfaction plus précieuse que de gros gages, l'intimité avec un grand seigneur dans l'adversité. Combien de soirées, durant cette errance, ne passèrent-ils pas à jouer au dé, à tabler dans l'angle d'une mauvaise taverne? Et quand le besoin de gueuser les démangeait un peu, ils entraient ensemble en quelqu'un de ces Bordeaux qui étaient nombreux en Flandre et offraient bon choix de lourdes ribaudes. C'était en de tels lieux, de la bouche de marchands qui revenaient des foires ou de maquerelles qui avaient fait parler des voyageurs, que Robert apprenait les nouvelles de France. À l'été 1332, Philippe VI avait marié son fils Jean, duc de Normandie, à la fille de Bohême, bonne de Luxembourg. « Voilà donc pourquoi Jean de Luxembourg m'a fait expulser de chez son parent de Brabant, » se disait Robert. « Voilà de quel prix on a payé ses services. » Les fêtes données pour ses noces à Melun avaient, à ce qu'on racontait, dépassé en splendeur tout autre dans le passé. Et Philippe VI avait profité de ce grand rassemblement des princes et de noblesse pour faire coudre solennellement la croix sur son manteau royal. Car la croisade, cette fois, était décidée. Pierre de la Palue, patriarche de Jérusalem, l'avait prêché à Melun, tirant les larmes aux 6 000 invités de la noce, dont 1 800 chevaliers d'Allemagne. L'évêque Pierre Roger la prêchait à Rouen, dont il venait de recevoir le diocèse, après ceux d'Arras et de Sens. Le passage général était décidé pour le printemps 1334. On hâtait la construction d'une grande flotte dans les ports de Provence, à Marseille, à Aigues-Mortes. Et déjà, l'évêque Marigny voguait, chargé d'aller porter défi au Soudan d'Égypte. Mais si les rois de Bohême, de Navarre, de Majorque, d'Aragon, qui vivaient à la table de Philippe, si les ducs, comtes et grands barons, ainsi qu'une certaine chevalerie éprise d'aventure, avaient suivi avec enthousiasme l'exemple du roi de France, la petite noblesse de terroir montrait, elle, moins d'empressement à saisir les croix de drap rouge tendues par les prédicateurs et à s'embarquer pour les sables d'Égypte. Le roi d'Angleterre, pour sa part, pressait l'instruction militaire de son peuple, mais ne donnait aucune réponse touchant les projets vers la Terre Sainte. Et le vieux pape Jean XXII, d'ailleurs en grave querelle avec l'Université de Paris et son recteur Buridan sur les problèmes de la vision béatifique, faisait la sourde oreille. Il n'avait accordé à la croisade qu'une bénédiction réticente, et il rechignait au partage des frais. En revanche, les marchands d'épices, d'encens, de soieries, de reliques, les fabricants d'armures et les constructeurs de bateaux poussaient beaucoup à l'entreprise. Philippe VI avait déjà organisé la régence pour la durée de son absence, et fait jurer aux pères, aux barons, aux évêques, s'ils venaient à trépasser outre-mer, qu'ils obéiraient en tout à son fils Jean et lui remettraient sans discussion la couronne. C'est donc que Philippe n'est point tellement assuré de sa légitimité, pensait Robert d'Artois, s'il engage à reconnaître son fils dès à présent. Accoudé devant un pot de bière, Robert n'osait pas dire à ses informateurs de rencontre qu'il connaissait tous les grands personnages dont il lui parlait. Il n'osait pas dire qu'il avait jouté contre le roi de Bohême, procuré la mitre à Pierre Roger, qu'il avait fait sauter le roi d'Angleterre sur ses genoux et dîner à la table du pape. Mais il notait tout pour en faire un jour son profit. La haine le soutenait. Aussi longtemps qu'en lui resterait la vie, aussi longtemps resterait la haine. En quelque endroit qu'il prit auberge, c'était la haine qui l'éveillait avec le premier rayon de jour filtrant entre les volets d'une chambre inconnue. La haine était le sel de ses repas, le ciel de sa route. On dit que les hommes forts sont ceux qui savent reconnaître leurs torts. Il en est de plus forts, peut-être, qui ne les reconnaissent jamais. Robert appartenait à cette seconde espèce. Il rejetait toute faute sur les autres, morts et vivants, sur Philippe le Bel, Enguerrand, Mao, sur Philippe de Valois, Eudes de Bourgogne, le chancelier Sainte-Maure. Et d'étape en étape, il ajoutait à la liste de ses ennemis sa sœur de Namur, son beau-frère de Hainaut, et Jean de Luxembourg et le duc de Brabant. À Bruxelles, il recruta un avoué véreux nommé Huy et son secrétaire Berthelot. C'était par des gens de procédure qu'il commençait à remonter sa maison. À Louvain, l'avoué Huy lui dénicha un moine de mauvaise mine et de douteuse vie, frère Henri de Sagebrand, qui s'y connaissait davantage en envoûtes et pratiques sataniques qu'en litanies et œuvres de charité. Avec frère Henri de Sagebrand, l'ancien pair de France, se souvenant des leçons de Béatrice d'Irson, baptisa des poupées de cire et les perça d'aiguilles en les nommant Philippe, Sainte-Maure ou Mathieu de Tri.
Et celle-là, vois-tu, soigne-la bien, perce-la depuis la tête tout le long du corps, car elle s'appelle Jeanne, la boiteuse reine de France. Ce n'est point vraiment la reine, c'est une diablesse.
Il se fournit aussi d'une encre invisible pour écrire certaines formules qui, tracées sur un parchemin, procuraient le sommeil éternel. Encore fallait-il que le parchemin fût glissé dans le lit de qui l'on voulait se débarrasser. Frère Henri de Sagebrand, chargé d'un peu d'argent et de beaucoup de promesses, partit pour la France, tel un bon moine mendiant, avec sous son froc une grosse provision de parchemin à dormir. Gilet de Nesle, de son côté, racolait des meurtriers à solde, des voleurs par vocation, des échappés de prison, gaillards à gueule basse, auxquels le crime répugnait moins que le travail à la journée. Et quand Gilet en eut fait une petite troupe bien instruite, Robert les envoya au royaume de France avec mission d'agir de préférence pendant les grandes réunions ou fêtes. Les dos offrent au couteau des cibles faciles quand tous les yeux sont tournés vers l'hélice ou toutes les oreilles tendues pour écouter prêcher croisade. À courir les routes, Robert avait maigri. La ride s'enfonçait davantage dans les muscles de sa face et la méchanceté des sentiments qui l'animaient du réveil au soir et jusque dans ses rêves avait donné à ses traits leur expression définitive. Mais en même temps, l'aventure lui rajeunissait l'âme. Il avait l'amusement de goûter en ces pays nouveaux à des nourritures nouvelles, à des femmes nouvelles aussi. Si Liège l'expulsa, ce ne fut pas pour ses méfaits anciens, mais parce que son gilet et lui-même avaient transformé une maison louée à un certain sieur d'Argenteau en vrai repère de folieuse, et que le bruit qui s'y faisait gâtait le sommeil du voisinage. Il y avait de bons jours, il y en avait de mauvais, comme celui où il apprit que le frère Henri de Sagebrand, avec ses parchemins à dormir pour l'éternité, s'était fait arrêter à Cambrai, et cet autre jour où l'un de ses meurtriers à solde reparut pour lui annoncer que ses compères n'avaient pu dépasser Reims et moisissaient à présent dans les prisons du roi Trouvé. Puis Robert tomba malade de la plus sotte façon. Étant réfugié dans une maison en bordure d'un canal où se déroulaient des joutes d'eau, la curiosité lui fit passer la tête jusqu'au col à travers une nasse à poissons qui masquait la fenêtre. Il se poussa si bien qu'il ne put se retirer qu'après de longs efforts, en s'arrachant le cuir des joues au grillage de la nasse. L'infection se mit dans les écorchures et la fièvre bientôt le saisit, dont il grelotta 4 jours, tout près de trépasser. Dégoûté des marches flamandes, il se rendit à Genève. Traînant ses chausses le long du lac, ce fut là qu'il apprit l'arrestation de la comtesse de Beaumont, son épouse, et de leurs 3 enfants. Philippe VI, par représailles contre Robert, n'avait pas hésité à enfermer sa propre sœur d'abord au donjon de Nemours, puis à Château-Gaillard, la prison de Marguerite. Vraiment, la Bourgogne prenait bien sa revanche. De Genève, voyageant sous un nom d'emprunt et vêtu comme un quelconque bourgeois, Robert gagna Avignon. Il y resta 2 semaines, cherchant à intriguer pour sa cause. Il trouva la capitale de la chrétienté débordante de richesses et de plus en plus dissolue. Ici, les ambitions, les vanités, les vices ne s'adoubaient pas d'une cuirasse de tournois, mais se dissimulaient sous des robes de prélat. Les signes de la puissance ne s'étalaient pas en harnais d'argent ou en haume empanachée, mais en mitres incrustées de pierres précieuses, en ciboire d'or plus lourd que des hanapes de roi. On ne se défiait point en bataille, mais on se haïssait en sacristie. Les confessionnaux n'étaient pas sûrs, et les femmes se montraient plus infidèles, plus méchantes, plus vénales que partout ailleurs, puisqu'elles ne pouvaient tirer noblesse que du péché. Et pourtant, nul ne voulait se compromettre pour l'ancien pair de France. On se rappelait à peine l'avoir connu. Même dans ce bourbier, Robert apparaissait comme un pestiféré, et la liste de ses rancunes s'allongeait. Toutefois, il eut quelques consolations à constater, en écoutant les gens, que les affaires de son cousin Valois étaient moins brillantes qu'on eût pu le croire. L'Église cherchait à décourager la croisade. Quelle serait, une fois Philippe VI et ses alliés embarqués, la situation de l'Occident laissée à la discrétion de l'empereur et du roi anglais? Si jamais ces 2 souverains venaient à s'unir, déjà le passage général avait été reculé de 2 ans. Le printemps de 1334 s'était achevé sans que rien fût prêt. On parlait maintenant de l'année 36. Pour sa part, Philippe VI, présidant lui-même une assemblée plénière des docteurs de Paris sur la montagne Sainte-Geneviève, brandissait la menace d'un décret d'hérésie contre le vieux pontife, âgé de 90 ans, si celui-ci ne rétractait pas ses thèses théologiques. D'ailleurs, on donnait la mort de Jean XXII pour imminente, mais il y avait 18 ans qu'on annonçait cela. « Rester vivant, se répétait Robert, voilà toute l'affaire. Durer pour attendre le jour où l'on gagne. » Déjà, le trépas de quelques-uns de ses ennemis venait lui rendre l'espérance. Le trésorier Forget était mort à la fin de l'autre année. Le chancelier Guillaume de Sainte-Maure venait de mourir à son tour. Le duc Jean de Normandie, héritier de France, était gravement malade. Et même Philippe VI, disait-on, subissait des ennuis de santé. Peut-être les maléfices de Robert n'avaient-ils pas été totalement inopérants. Pour retourner en Flandre, Robert prit des habits de convers. Étrange frère, en vérité, que ce géant dont le capuchon dominait les foules, qui entrait d'un pas guerrier aux abbayes et demandait l'hospitalité qu'on doit aux hommes de Dieu, de la même voix qu'il eût demandé sa lance à un écuyer. Dans un réfectoire de Bruges, la tête inclinée sur son écuelle au bout de la longue table grasse et faisant mine de murmurer des prières dont il ignorait le premier mot, il écoutait le frère lecteur, installé dans une petite niche creusée à mi-hauteur du mur, lire la vie des saints. Les voûtes renvoyaient la voix monotone sur la table des moines, et Robert se disait « Pourquoi ne pas finir ainsi ? La paix, la profonde paix des couvents, la délivrance de tout souci, le renoncement, le gîte assuré, les heures régulières, la fin de l'errance. Quel homme, fût-ce le plus turbulent, le plus ambitieux, le plus cruel, n'a pas connu cette tentation du repos, de la démission? À quoi bon tant de luttes, tant d'entreprises vaines, puisque tout doit s'achever dans la poudre du tombeau? Robert y songeait, de la même façon que 5 ans plus tôt, il songeait à se retirer avec sa femme et ses fils dans une tranquille vie de seigneur terrien. Mais ce sont là pensées qui ne peuvent durer, et chez Robert, elles se présentaient toujours trop tard, à l'instant même où quelque événement allait le rejeter dans sa vocation véritable, qui était l'action et le combat. 2 jours plus tard, à Gand, Robert d'Artois rencontrait Jacob van Artevelde. L'homme était sensiblement du même âge que Robert, l'approche de la cinquantaine. Il avait le masque carré, la panse forte et les reins bien plantés sur les jambes. Il était fort mangeur et buveur solide, sans que jamais la tête lui tournât. En sa jeunesse, il avait fait partie de la suite de Charles de Valois à Rhodes et accompli plusieurs autres voyages. Il possédait son Europe. Ce brasseur de miel, ce grand négociant en drap, s'était, en seconde noce, marié à une femme noble. Hautain, imaginatif et dur, il avait pris grande autorité, d'abord sur sa ville de Gand, qu'il dominait complètement, puis sur les principales communes flamandes. Lorsque les foulons, les drapiers, les brasseurs, qui constituaient la vraie richesse du pays, voulaient faire des représentations au comte ou au roi de France, c'était à Jacob van Artevelde qu'ils s'adressaient, afin qu'il allât porter leurs vœux ou leurs reproches d'une voix forte et d'une parole claire. Il n'avait aucun titre. Il était messire van Artevelde, devant qui chacun s'inclinait. Les ennemis ne lui manquaient pas, et il ne se déplaçait qu'accompagné de 60 valets armés qui l'attendaient aux portes des maisons où il dînait. Artevelde et Robert d'Artois se jugèrent, se jaugèrent du premier coup d'œil pour gens de même race, courageux de corps, habiles, lucides, animés du goût de dominer. Que Robert fût un proscrit gênait peu Artevelde. Au contraire, ce pouvait être aubaine pour le Gantois que la rencontre de cet ancien grand seigneur, ce beau-frère de roi, naguère tout-puissant, est maintenant hostile à la France. Et pour Robert, ce bourgeois ambitieux apparaissait 20 fois plus estimable que les nobliaux qui lui interdisaient leur manoir. Artevelde était hostile au comte de Flandre, donc à la France, et puissant parmi ses concitoyens. C'était là l'important.
« Nous n'aimons pas Louis de Nevers, qui n'est demeuré notre comte que parce qu'au Mont Cassel, le roi a massacré nos milices. »«
J'y étais, » dit Robert.
« Le comte ne vient parmi nous que pour nous demander l'argent qu'il dépense à Paris. Il ne comprend rien aux représentations et n'y veut rien comprendre. Il ne commande rien de son chef et ne fait que transmettre les mauvaises ordonnances du roi de France. On vient de nous obliger à chasser les marchands anglais. » Nous ne sommes point opposés, nous, aux marchands anglais, et nous nous moquons bien des différends que le roi trouvé peut avoir avec son cousin d'Angleterre au sujet de la croisade ou du trône d'Écosse. À présent, l'Angleterre, par représailles, nous menace de couper les livraisons de ses laines. Ce jour-là, nos foulons et tisserands, ici et dans toute la Flandre, n'auront plus qu'à briser leur métier et fermer leurs échoppes. Mais ce jour-là aussi, monseigneur, ils reprendront leurs couteaux. Et Hainaut, Brabant, Hollande, Zélande seront avec nous, car ces pays ne tiennent à la France que par les mariages de leurs princes, mais non par le cœur de leur peuple, ni par son ventre. On ne règne pas longtemps sur des gens qu'on affame. »
Robert écoutait Artevelde avec grande attention. Enfin un homme qui parlait clair, qui savait son sujet et qui semblait appuyé sur une force véritable.
« Pourquoi, si vous devez vous révolter encore, dit Robert, ne pas vous allier franchement au roi d'Angleterre? Et pourquoi ne pas prendre langue avec l'empereur d'Allemagne, qui est ennemi du pape, donc ennemi de la France, qui tient le pape dans sa main? Vos milices sont courageuses, mais limitées à de petites actions parce qu'il leur manque des troupes à cheval. Faites-les soutenir d'un corps de chevaliers anglais, d'un corps de chevaliers allemands, et avancez-vous en France par la route d'Artois. Là, je gage de vous gagner encore plus de monde. »
Il voyait déjà la coalition formée, et lui-même chevauchant à la tête d'une armée.
« Croyez bien, monseigneur, que j'y ai souvent pensé, » répondit Artevelde, « et qu'il serait aisé de parler avec le roi d'Angleterre, et même avec l'empereur Louis de Bavière, si nos bourgeois y étaient prêts. Les hommes des communes haïssent le comte Louis, mais c'est néanmoins vers le roi de France qu'ils se tournent pour en obtenir justice. Ils ont fait serment au roi de France. Même quand ils prennent les armes contre lui, ils demeurent leur maître. En outre, et c'est là manœuvre habile de la part de la France, on a contraint nos villes à reconnaître qu'elles verseraient 2 millions de florins au pape si elles se révoltaient contre leur suzerain, et ceci sous menace d'excommunication si nous ne payions pas. Les familles redoutent d'être privées de prêtres et de messes. C'est-à-dire qu'on a obligé le pape à vous menacer d'excommunication ou de ruine afin que vos communes se tiennent tranquilles durant la croisade. Mais qui pourra vous forcer à payer quand l'hoste de France sera en Égypte ? Vous savez comment sont les petites gens, dit Artevelde. Ils ne connaissent leur force que lorsque le moment d'en user est passé.
Robert vida la grande chope de bière qui était devant lui. Il prenait goût à la bière, décidément. Il resta un moment silencieux, les yeux fixés sur la boiserie. La maison de Jacob van Artevelde était belle et confortable. Les cuivres, les étains bien astiqués, les meubles de chêne y luisaient dans l'ombre.
« C'est donc l'allégeance au roi de France qui vous empêche de contracter des alliances et de reprendre les armes. »«
C'est cela même, » dit Artevelde.
Robert avait l'imagination vive. Depuis 3 ans et demi, il trompait sa fin de vengeance avec de petites pâtures, envoûtes, sortilèges, tueurs à gages qui n'arrivaient pas jusqu'aux victimes désignées. Soudain, son espérance retrouvait d'autres dimensions. Une grande idée germait, enfin digne de lui.
« Et si le roi d'Angleterre devenait le roi de France » demanda-t-il.
Artevelde regarda Robert d'Artois avec incrédulité, comme s'il doutait d'avoir bien entendu.
« Je vous dis, messire, si le roi d'Angleterre était le roi de France, s'il revendiquait la couronne, s'il faisait établir ses droits, s'il prouvait que le royaume de France est sien, s'il se présentait comme votre suzerain légitime...
« Monseigneur, c'est un songe que vous bâtissez là.
Un songe ?» s'écria Robert. « Mais cette querelle-là n'a jamais été jugée, ni la cause perdue. Quand mon cousin Valois a été porté au trône, quand je l'ai porté au trône, et vous voyez la grâce qu'il m'en garde, les députés d'Angleterre sont venus faire valoir les droits de la reine Isabelle et de son fils Édouard. Il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 7 ans. On ne les a pas entendus parce qu'on ne voulait pas les entendre et que je les ai fait reconduire à leur vaisseau. Vous appelez Philippe le roi trouvé. Que n'en trouveriez-vous un autre ? Et que penseriez-vous si l'on reprenait maintenant l'affaire et qu'on vint dire à vos foulons, vos tisserands, vos marchands, vos communaux ? Votre comte ne tient pas ses droits de bonne main. Son hommage, il ne le devait point au roi de France. Votre suzerain, c'est celui de Londres. »
Un songe, en vérité, mais qui séduisait Jacob van Artevelde. La laine qui arrivait du nord-ouest par la mer, les étoffes, rudes ou précieuses, qui repartaient par le même chemin, le trafic des ports, tout incitait la Flandre à tourner ses regards vers le royaume anglais. Du côté de Paris, rien ne venait, sinon des collecteurs d'impôts.
« Mais croyez-vous, monseigneur, en bonne raison, qu'aucune personne au monde puisse être convaincue de ce que vous dites et puisse consentir à pareille entreprise ?»«
Une seule, messire. Il suffit qu'une seule personne soit convaincue. Le roi d'Angleterre lui-même. »
Quelques jours plus tard, à Anvers, muni d'un passeport de marchand drapier et suivi de gilets de nail qui portaient pour la forme quelques zones d'étoffe, monseigneur Robert d'Artois s'embarquait pour Londres.